Alors donc, toujours le rappel du calendrier, ceci est le dernier cours du trimestre, ensuite les vacances de Pâques, ensuite trois cours, encore le 20 avril, le 27 avril et le dernier cours donc le 4 mai. Ensuite, petit courrier des auditeurs qui reprend. On m'a fait remarquer très justement que on pouvait éprouver un certain étonnement à ce que, entre les figures intitulées fleurs d'une part et marginalité de l'autre, il n'y ait aucune figure. C'est-à-dire qu'on passe brusquement de la lettre F à la lettre M. Alors, je comprends très bien qu'on s'en étonne, mais si vous le permettez, je reviendrai sur ce problème du classement alphabétique des figures à la fin, quand on fera un petit tour d'horizon méthodologique. Bien sûr, en un mot, on peut dire, et vous le comprenez, que lorsqu'on classe des figures ou des traits du vivre ensemble dans l'ordre alphabétique, on profite, si je puis dire, d'un double arbitraire. Il y a l'arbitraire de la nomination, qui me fait appeler telle figure d'un nom qui pourrait être autre, et enfin, il y a l'arbitraire, si je puis dire, millénaire de l'alphabet, qui fait qu'en particulier, dans l'alphabet français, les premières lettres sont toujours plus chargées que les lettres du milieu. Deuxième remarque, on s'est un peu interrogé sur l'emploi que je faisais, emploi fréquent, du mot symbolique, la symbolique ou le symbolique. Alors, je précise, ce qui était, je crois, assez évident, que je n'emploie nullement le mot symbolique, sauf exception signalée, dans le sens lacanien de registre, d'un certain registre opposé au réel et à l'imaginaire. Non, je donne au mot symbolique un sens toujours très vague, très général, un sens courant, qui est, disons, propre du sens ethnologique. Et j'ajouterai ici que, à mon avis, nous avons besoin de l'impureté des mots. Nous avons besoin que certains mots soient vagues. Et une langue qui serait tout à fait pure, ou un sujet qui ne parlerait que par concept inflexible, serait à la fois une langue et un sujet mortel. Cela dit, je reprends la figure intitulée « nom » au pluriel. J'avais donné quelques indications sur le problème des surnoms en communauté. Et maintenant, j'aborde un second paragraphe qui peut s'appeler d'un nom un peu barbare. C'est un phénomène qui est connu en linguistique, c'est un terme linguistique, c'est le problème du caritatisme. Caritatisme, comme ça se prononce. Vous savez que c'est un terme assez rare, même en linguistique, mais qui existe. Je ne l'ai pas inventé, cela dit, je ne sais pas où je l'ai trouvé. Mais c'est un terme qui désigne les formes affectueuses qu'on donne parfois aux noms qui renvoient à des objets usuels. Les journaux de mode ont très souvent recours à ce procédé du caritatisme, n'est-ce pas? Par exemple, le bon petit manteau qui vous tiendra bien chaud, n'est-ce pas? Le petit manteau, c'est un caritatisme. Alors, je voudrais signaler dans notre corpus deux formes de caritatisme, et bizarrement, nous allons les trouver dans le récit le plus horrible du corpus, qui est un mélange de respectabilité bourgeoise, de ferve de vermine et de folie, qui est le récit de la séquestrée de Poitiers. Alors d'abord, j'indiquerai que dans cette famille recluse, au rapport apparemment féroce, puisque la mère et le fils sont, ou le frère si vous voulez, sont accusés de séquestrer la fille et la sœur, et d'ailleurs, ce que je vais dire aurait dû donner à réfléchir à la police, si la police réfléchissait, parce que il est bizarre de voir développer dans un contexte dit de séquestration des habitudes de langage caritatiques. En effet, dans cette famille, il y avait l'usage de surnoms affectueux. La fille, la séquestrée, s'appelait, du point de vue de l'état civil, Mélanie, mais le frère, on ne sait pourquoi, ne l'appelait pas du tout Mélanie, il l'appelait « ma petite Gertrude ». Et la sœur appelait son frère supposé séquestrateur « petit Pierre ». Et les enfants appelaient la mère, qui était une vieille dame austère et respectable, accusée de séquestrer sa fille, eh bien, sa fille et le frère, appelaient la mère, on ne sait pourquoi, Bounine, B-O-U-N-I-N-E. Alors, c'est là un phénomène intéressant, bien sûr, je ne sais pas très bien l'expliquer. Dans une famille, parfois, c'est un fait, on change les noms. On donne d'autres prénoms que ceux de l'état civil, on invente des surnoms, en général inexplicables, qui viennent sans doute d'un incident perdu de l'enfance. Il est probable que l'invention de nouveaux noms signifie une rupture avec le monde de tout le monde, si je puis dire, et une surclôture, une intégration nouvelle. La famille elle-même n'est pas ressentie comme un lieu suffisamment fort d'intégration, et dans ce lieu d'intégration, on ajoute une surintégration en changeant les noms, en inventant les noms. Bref, il s'agit dans ces cas-là d'une véritable conversion, pas la donation de noms est liée au baptême. Changer la langue est l'acte initial de toute l'innovation. Toute novation qui se pense passionnellement comme une novation veut changer les noms. Et c'est l'acte initial de toutes les naissances et de toutes les intégrations fortes. Alors, parfois d'ailleurs, je signale un fait, dans les langages communautaires, j'ai signalé plusieurs reprises le cas de ces communautés qui ont essayé de s'établir en France après 1972, c'est-à-dire ces dernières années, à la suite d'expériences américaines, souvent dans des fermes ou dans des lieux abandonnés de départements déshérités. Et il y a eu un livre là-dessus, qui s'appelle « La chasse au bonheur », de Galien et de Roger Poldroit, qui est une façon de reportage, à la fois vivace et intelligent, sur quelques-unes de ces communautés. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment appeler les gens qui font partie de ces communautés. En général, maintenant, on les appelle des communards, bien que ça fasse ambiguïté avec les partisans de la Commune de Paris. Alors, donc, dans ce langage communautaire de ces communautés, quelquefois, il n'y a que l'affiche de la rupture, c'est-à-dire l'intégration, du point de vue langagier, est donnée seulement par la voie d'une affiche de rupture et non par la création d'un langage nouveau. Ainsi, les communards d'une campagne, dont on nous raconte l'expérience, parmi ces communards, il y a une jeune femme qui s'appelle Lise et qui est venue là, en communauté, parce qu'elle ne pouvait plus respirer à Paris. C'est le thème de la pollution. Bien sûr qu'il faudrait examiner ce mythe de la pollution, ce mythe si actif aujourd'hui, dans la mesure où ici, ce qui est ressenti comme pollution, vous allez le voir, c'est en fait le dessin, c'est l'hygiène, c'est un langage hygiénique qui est ressenti comme une pollution. Donc si on rompt avec cette pollution, pour marquer son intégration dans la commune, on recourt, et c'est ce que fait Lise, à un langage dit grossier. En effet, Lise commence la plupart de ses phrases, nous dit-on, par « putain ». Et elle termine toutes ses phrases par « y a pas à chier ». Et quand son fils, qui s'appelle Dadoun, déchire un livre, elle hurle « putain, il est con ce mec ». Et etc. Alors, il s'agit d'un langage rejet, bien entendu, c'est une façon d'afficher le rejet, mais à condition de savoir que tout langage se définit par ce qu'il rejette et qu'il n'y a pas de degré zéro du langage, bien que chacun d'entre nous croit parler un langage naturel. Il faut toujours, tout d'un coup, se demander, par mon langage, quels sont les langages que je rejette. Deuxième observation sur le langage de Mélanie, maintenant. la séquestrée, Mélanie a à sa disposition deux langages quand elle est seule, disons, ou quand les enquêteurs la surprennent en train de parler seule. Elle a un premier langage qui s'établit par rapport au contexte social et qui est un langage très ordurier, alors que c'est une fille de milieu tout à fait bourgeois, classiquement bourgeois. Eh bien, par exemple, quand on la transporte à l'hôpital après sa déséquestration, elle refuse de répondre et envoie promener les personnes qui lui adressent la parole par des gros mots et par des ordures, des mots orduriers. C'est-à-dire que le langage social de Mélanie, le langage pour l'autre, c'est bien sûr le déchet de la rupture. C'est le langage qui signale l'effraction de sa chère grotte, qu'elle appelait le grand fond malampien. Et puis alors, elle a un second langage, et c'est là-dessus que je veux insister, qu'on pourrait appeler son langage communautaire, étant bien entendu que la communauté de Mélanie, c'est sa solitude, c'est la communauté qu'elle a en quelque sorte avec elle-même. Et dans ce langage-là, ce langage est continuellement marqué de caritatisme, c'est là que je voulais en venir, de caritatisme enfantin. Par exemple, elle parle tout le temps de son cher petit crayon, sa chère petite rose. Et elle applique cette expression de son cher ou sa chère petite à absolument tous les objets. Par exemple, elle réclame son cher petit torchon, dont elle se couvrait la tête et qui était rempli de crasse et de vermine. Mais ça n'empêchait pas que c'était son cher petit torchon. Elle veut manger son cher petit poulet. Elle veut manger de chers petits brocs de fraises, des petits paniers de fraises. Et elle veut manger un cher petit macaron au chocolat. Alors, je crois que la fonction de ces caritatismes, très insistants, très spectaculaires, c'est de faire passer le nom commun, crayon, macaron, etc., au statut de nom propre pour soi-même, ou du moins d'en esquisser le mouvement. Car le caritatisme, au fond, individualise l'objet par une projection affective. Et il fait de l'objet, quand Mélanie dit son cher petit torchon, eh bien, elle fait du torchon une sorte d'expansion narcissique de son moi et le baptise, ce torchon, comme incomparable, ce qui est le statut idéal du nom propre, comme le terme lui-même le dit. Un nom propre, c'est un nom qui renvoie à l'incomparable. Et ici, le caritatisme dénote l'ultime différence comme irréductible. Or, l'ultime différence, c'est toujours moi. C'est moi, l'ultime différence. Il faut penser à ce vers célèbre de la Médée de Corneille. Dans ce malheur extrême, je cite de mémoire, je crois que le vers n'est pas exact, c'est-à-dire que Médée, malheur extrême, oui, puisqu'elle a égorgé ses enfants par représailles contre Jason qui l'a abandonné. Alors quelqu'un lui dit, dans ce malheur extrême, que vous reste-t-il? Tirez moi. Il me reste moi. C'est l'ultime différence. Eh bien, dans la claustration absolue, que vous reste-t-il? Eh bien, il me reste mon crayon, mon poulet, mes fraises, mon macaron au chocolat. Autrement dit, le nom, c'est toujours, dans ce cas-là, le nom de ce que j'aime, c'est mon nom. Je ne nomme plus que ce que j'aime. Voilà le statut de Mélanie. Sa liberté, c'est de ne plus nommer que ce qu'elle aime. Je nomme seulement ce qui vaut la peine d'être nommé. Troisième groupe d'observation, toujours dans les noms, après le caritatisme, ce serait le sans-nom. En effet, cette appellation caritatique apparaît comme une sorte de contre-nomination. Quand je dis mon petit crayon, mon petit macaron, eh bien, je retire les noms de la généralité de la langue. Alors que la nomination de la langue sert à classer tout le réel pour le manier, eh bien, dans ce cas-là, dans le cas du caritatisme, je nie dans la langue tout ce qui n'est pas objet d'amour. Et je détruis la langue. À ce moment-là, j'en fais une vaste ruine où il ne reste debout que quelques noms d'amour. Par conséquent, la nomination caritatique implique l'espace d'amour qui est un espace duel, donc hors généralité. Et par conséquent aussi, c'est là que je veux en venir, on peut penser que les appellations caritatiques sont fort closes dans les communautés, dans la vie, dans le vivre ensemble par communauté. L'appellation caritatique est peu vraisemblable parce qu'elle implique un duel qui est incompatible avec la vie communautaire. Comme ces communautés tendent toujours à se constituer en espace de manipulation, il ne reste plus à ce moment-là que les noms propres, les prénoms et les surnoms. Mais avec le nom propre, c'est là que je veux en venir maintenant, dans l'espace communautaire surgit un nouveau danger qui serait le danger du potin. Le nom propre, en effet, a pour substitut grammatical et pronominal il ou elle. Or, vous savez que ces pronoms de la troisième personne, Benveniste en a fait la démonstration célèbre, les pronoms de la troisième personne, ou comme on disait dans les grammaires arabes, de la non-personne, la troisième personne c'est la non-personne, ces pronoms de la troisième personne absentent l'autre. Dire il ou elle, c'est faire de l'autre celui ou celle dont on parle. C'est l'absenter en tant que nous en parlons, nous l'absentons. Et nous ne pouvons en parler que parce que nous l'absentons. Et c'est ainsi que le nom propre devient un nom effectivement référentiel, c'est-à-dire le nom de quelque chose qui est absent. Et la communauté, à ce moment-là, en maniant des noms propres, manie, la communauté est transformée en espace du potin, c'est-à-dire du il, du elle, du un tel ou du une telle, dont on parle. Et j'ai dit, parce que je le crois, que ces pronoms, il, elle, ce sont des prénoms méchants. Ce sont des prénoms méchants, et on peut mesurer en soi-même, parfois, la grande résistance qu'on a à dire il ou elle d'une personne qu'on aime profondément. Tout au moins, c'est ainsi que je le sens. Donc, dans une communauté idéale, utopique, je dirais qu'à mon sens, il n'y aurait pas de nom, il n'y aurait pas de nom pour qu'on ne puisse jamais parler les uns des autres en tant qu'absent. Il n'y aurait que des appels, des présences, des vocatifs. Il n'y aurait pas des images, il n'y aurait pas des absences. Il n'y aurait pas de manipulation par le nom, que ces manipulations soient bonnes ou soient mauvaises. Voilà pour les noms. Alors maintenant, la nourriture. Bon, il va de soi que le problème des symbolisations alimentaires vaudrait à lui tout seul une encyclopédie. J'avais d'ailleurs pensé à un moment faire, ou enfin mettre en œuvre une encyclopédie de la nourriture, pas à moi tout seul, bien sûr, par réaction contre la commercialisation unilatérale des livres de cuisine à la moderne, c'est-à-dire qui raffine sur une diététique qui se donne pour rationnelle et semble en général complètement ignorer qu'il y a encore de nos jours une symbolique et un rituel des aliments. Et ceci rejoint la grande imposture idéologique de l'hygiène et de la santé, n'est-ce pas, qui serait à examiner dans une mythologie contemporaine. Alors, cette encyclopédie de la nourriture qui récupérerait tout le problème des symbolisations alimentaires, ça serait une encyclopédie extrêmement vaste, puisqu'elle irait, je dirais, pour simplifier, du Tao à la Bible et de la Bible à Lévi-Strauss, dans le cru et le cuit. Alors, je ne fais comme toujours qu'entrouvrir le dossier. Je vais m'occuper de trois questions, les rythmes, les substances et les pratiques. D'abord, les rythmes, c'est-à-dire les horaires des prises de nourriture. J'entrevois, disons ici, c'est un classement de dossier. J'entrevois trois problèmes. D'abord, l'horaire des repas dans les communautés. Bon, c'est important. Premièrement, parce que l'horaire des repas rythme la quotidienneté beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a un rapport inflexible entre il y a un rapport étroit entre le rythme inflexible des repas et l'osium, c'est-à-dire le statut oisif des moines à l'origine, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'ils étaient du côté de l'osium. Et il suffit de penser à la version laïque de ce rapport, le fait que des gens qui sont des retraités, par exemple, qui se retirent à la campagne dans une petite maison, vivent des horaires absolument méticuleux et draconiens des heures de repas. Car le repas, c'est le contre-ennui, et plus l'heure du repas est régulière, plus l'ennui est combattu. Deuxièmement, dans les communautés, le repas, c'est une occasion de rencontre, de convivialité, de fêtes discrètes, et les anachorètes d'Égypte, par exemple, même lorsqu'ils étaient seuls, ils suivaient une norme régulatrice. Même seul, l'ermite se soumettait à un horaire de repas. En général, ces anachorètes égyptiens ne prenaient qu'un seul repas par jour vers l'heure qu'on appelait non, la neuvième, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, après la sieste. Alors, quand le cénobitisme est apparu, il y a eu un grand flottement jusqu'aux règles très strictes du cénobitisme occidental. Mais dans les premiers couvents, c'est-à-dire les couvents de Pacôme en Égypte, tantôt il n'y avait qu'un repas par jour que chacun prenait quand il voulait, tantôt il y avait un repas pris ensemble dans un réfectoire, il y avait même tantôt la possibilité de prendre son repas dans sa cellule, mais à condition de ne rien y conserver. Dans le contexte ascétique, bien sûr, le problème de ces horaires, la fonction de ces horaires très réguliers, c'est d'absenter la nourriture, soit en la réduisant au maximum les horaires de prise, c'est-à-dire un seul repas par jour, par exemple, soit en les régularisant à l'extrême. Car il est certain que la visée d'une règle bien faite et bien tenue, je dirais que c'est de rendre le temps transparent. Un horaire très régulier rend le temps transparent. Enfin, ce sont les horaires discontinus, désordonnés, qui font le temps lourd, qui peuvent faire un temps très festif pendant un moment, mais qui, à la longue, font un temps très lourd. Et si vous voulez absenter, rendre le temps transparent, adoptez un horaire inflexible. Car je le crois, le code, tout ce qui est codé, le code absente, à condition de ne pas croire au code. Le code absente beaucoup plus que la spontanéité ou l'irrégularité. Deuxième problème dans les rythmes, c'est le problème bien connu de toute la chrétienté, toutes les histoires des religions, le rapport entre les horaires et les jeûnes. Alors, l'excès ascétique chez les anachorètes orientaux accomplit le jeûne par la suppression des repas. Vous savez que dans beaucoup d'hagiographies, on nous raconte de la part d'ascètes célèbres de véritables grèves de la faim qui durent plusieurs jours. Alors, dans le climat géographique, ça atteint même des nombres absolument incroyables de jours où l'ascète reste sans manger. Mais couramment, en effet, l'ascète se contente d'un repas absolument famélique par jour. D'où la réaction, je dirais, intégriste des grands fondateurs de règles monastiques. Jeûner véritablement ne consiste pas à se priver brutalement et radicalement de nourriture, mais ça consiste, là c'est explicitement dit, à toujours rester sur sa faim. Le véritable jeûne, c'est de toujours rester sur sa faim. C'est pas de se priver de nourriture pendant des jours, c'est de toujours rester sur sa faim. Et vous savez que d'ailleurs c'est aujourd'hui la règle même des cures d'amaigrissement qui prescrivent de manger souvent mais toujours très peu et d'être toujours sur sa faim. Il n'est pas possible de maigrir si on n'a pas faim. Maigrir, ça veut dire avoir faim, il faut en passer par là. Et c'est ainsi que saint Jérôme, au IVe siècle, écrit à une jeune veuve qu'il catéchisait, qui s'appelait la veuve Furia, « Choisis plutôt nourriture sobre, estomac qui reste toujours sur sa faim, que jeûne de 3 jours. Mieux vaut manger peu chaque jour que se gaver à rares intervalles. » Et à propos du jeûne qu'il désapprouve, qui est le jeûne par à-coups, c'est pas manger beaucoup tous les 3-4 jours et rien entre, saint Jérôme a une expression très belle, il parle d'une abstinence goulue. Une abstinence goulue. Alors, il faut d'ailleurs noter en petite digression que le rythme condamné par saint Jérôme, c'est-à-dire manger beaucoup à certains moments et ensuite ne rien manger pendant plusieurs jours, ça a été pendant des siècles une contrainte d'ordre économique pour les sociétés. Hein. L'irrégularité des ressources, des moissons par exemple, faisait que la vie alimentaire, par exemple, disons en gros au Moyen-Âge, la vie alimentaire des hommes était une vie extrêmement irrégulière. On ne mangeait pas pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, il y avait effectivement une sorte de débordement festif de la nourriture. C'était le régime donc du Moyen-Âge, et ça a continué longtemps, il n'y a pas très longtemps, je crois, que les hommes ont une alimentation régulière. Enfin, il faut toujours penser à cela. Et cela explique le caractère qui est pour nous incompréhensible et irréaliste des descriptions de menus passés, même au XVIIe, XVIIIe et même encore au XIXe siècle, dans la littérature, nous voyons faire état de menus qui nous paraissent absolument impossibles, tellement ils sont abondants. Mais ça veut dire simplement que la littérature ne notait que ces repas-là. Elle notait que les fastes alimentaires. Et d'ailleurs, dans ces repas de fête, quand on lit la description des services innombrables, n'est-ce pas, d'un déjeuner ou d'un repas, il ne faut jamais oublier que ce qui est noté, c'est ce qui était sur la table, n'est-ce pas, c'est tout ce qui était sur la table, mais chacun ne prenait que ce qu'il voulait sur cette table. Ça n'indique pas ce qu'un seul sujet mangeait, mais seulement ce dans quoi il pouvait choisir. Alors, une autre façon, c'est ma troisième remarque concernant les rythmes, une autre façon d'absenter la nourriture, puisque tel est le problème de l'ascèse, c'est de ne pas la gagner, de ne pas gagner sa nourriture, c'est-à-dire de la rejeter hors d'une contrainte d'échange. La nourriture a toujours été prise par le sens commun dans une contrainte d'échange, ce dont témoignent des expressions comme « travailler pour gagner son pain, travailler pour gagner son beefsteak, etc. » L'échange entre le travail et la nourriture est une base en quelque sorte fondamentale de la symbolique. Or, dans le cas des ascètes, on détruit ce circuit d'échange pour absenter la nourriture. C'est-à-dire qu'on va penser la nourriture comme ne devant pas être gagnée. Et c'est la pratique de l'aumône de nourriture. Demander et se faire donner la nourriture, et non pas de l'argent. C'est une pratique universelle dans les histoires de la religion, mais je dirais que le plus intéressant, c'est à mon sens le symbolisme bouddhique de l'aumône de nourriture. Vous allez voir que par cette symbolique-là, on absente la nourriture 3 fois. Premièrement, en ne la gagnant pas, c'est-à-dire en la laissant venir. Deuxièmement, c'est plus fort, en ne la demandant pas. Et troisièmement, c'est encore plus fort, en ne la regardant pas. En effet, dans les monastères de Ceylan, dont j'ai souvent parlé, bien que les tournées d'aumône aujourd'hui se fassent de plus en plus rares, puisque la nourriture est apportée directement au monastère par les laïcs, ces tournées d'aumône subsistent tout de même et elles gardent leur plénitude symbolique. Cela se passe ainsi. La tournée d'aumône de nourriture se fait vers 10h ou 11h du matin. Les moines sortent du monastère, ce sont toujours de petits monastères, n'est-ce pas, de petites communautés. les moines sortent un par un, chacun pour un groupe de maisons. Et puis, alors ensuite, ils vont rentrer, disons, une demi-heure ou une heure plus tard, et ils vont manger vers midi. Alors, ils sortent un par un, et chacun tient un bol vide contre la poitrine. Mais ce bol est caché par la toge du bonze, enfin du moine. Et alors, le moine marche les yeux baissés, assez lentement, c'est ça qui est très beau, mais sans hésiter. Sans hésiter. Et de temps à autre, le moine s'arrête devant une maison ou une boutique et il attend, immobile et silencieux, sans se retourner vers la porte. Alors quelqu'un sort de la maison ou de la boutique, écarte la toge et verse de la nourriture dans le bol. Ou bien emporte le bol, va le remplir à la cuisine et le replace dans les bras du moine. À ce moment-là, le laïc salue. Et le moine murmure une bénédiction et s'éloigne lentement. Enfin, mais encore une fois, dans toute cette petite cérémonie qui peut se répéter le long d'un pâté de maison, le moine est immobile et silencieux, sans un regard pour la nourriture. Vous aurez donc noté toutes les opérations d'annulation, non seulement de la nourriture, mais même de sa demande. C'est la demande de nourriture elle-même qui est annulée. Alors, je dirais qu'en tout ceci, dans tous ces problèmes de rythme alimentaire, il y a deux groupes de rythmes qui sont liés à des structures, ou si vous voulez, à des idéologies différentes. Il y a premièrement un groupe de rythmes, ou un rythme, qui a une fonction essentiellement mortificatoire, c'est-à-dire un rythme alimentaire qui supprime la nourriture et qui châtie le corps. C'est les ascèses radicales de la chrétienté. Mais deuxièmement, il y a aussi un rythme neutre, qui n'est pas mortificatoire, qui se contente d'absenter la nourriture, qui essaye en quelque sorte de la rendre transparente, insignifiante, et si je puis dire, inaffective, indésirable. Voilà pour les rythmes. Maintenant, les substances. Bon, ici encore, c'est un gouffre de questions, puisque, en fait, c'est le problème énorme, vrai sujet de colloque, il y a dû y avoir d'ailleurs des colloques, des numéros spéciaux de revue sur ça, c'est le problème de l'interdit, qui est le cheval de bataille de l'anthropo-ethnologie, sans parler de la psychanalyse. Alors, premier groupe de problèmes, les clivages de l'interdit, c'est-à-dire par où passe le clivage entre ce qui est interdit alimentairement et ce qui est toléré. Alors, c'est là que le dossier serait immense, parce qu'il y a des interdits qui sont, je dirais, universellement connus, soit comme chez nous, la viande pendant le carême, remplacée par viande interdite, poisson toléré. Mais nous avons vu que, par exemple, avec des sortes de sophistications extrêmes, la chair de lapin, au début, était considérée comme de la chair de poisson. Elle était donc permise. Bon, un autre clivage qui sépare les substances animales des substances végétales, dans le végétarisme, dans la religion judaïque, les tabous, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament notamment, les tabous alimentaires sont extrêmement nombreux et extrêmement précis, n'est-ce pas, ne pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, c'est ce qui exclurait aujourd'hui de manger, je dirais, des escalopes normandes, puisqu'il y aurait du fromage, de la crème, et tout le problème du cachère. Alors, je voudrais signaler seulement, parce que c'est moins connu, et que donc ça risque de vous intéresser davantage, deux interdits, qui montre bien le dédale des interdits, n'est-ce pas, le redan obsessionnel et la subtilité des clivages. Le premier interdit dont je veux parler, c'est celui pratiqué par les anachorètes d'Orient, dont j'ai souvent parlé. Ces ermites, en effet, avaient un régime alimentaire qui était soumis à des tabous très forts, des interdits très forts. Il se nourrissait essentiellement, nous dit-on, de salades crues, de laitue, en grec lakana, L-A-C-H-A-N-A. De salade crue, de légumes verts, donc de crudités, nous appellerions ça des crudités, de sel et de pain. On connaît même la ration de pain, normale pour un ascète, deux galettes par jour, deux galettes de 6 onces chacune, ce qui paraît-il faisait une livre romaine, ce qui paraît-il faisait 340 grammes de pain par jour. Alors, en face de cela, qui était donc autorisé, ce qui était interdit, c'était tout le reste. C'est-à-dire, les mets cuits, tout ce qui était cuit était interdit, le vin, bien sûr, l'huile, sauf à l'agape du samedi, quand ils se réunissaient tous le samedi, et les légumineux à gousse. À gousse, les pois, les fèves. Alors, l'huile, c'est assez intéressant, n'est-ce pas? Parce que il y a l'ancien de Saint Pacôme, disons le gourou de Saint Pacôme, un jour a vu de l'huile sur du sel écrasé, qu'on lui donnait à manger, de l'huile sur du sel écrasé. Je sais pas si ça vous fait envie, mais il s'est écrié, le Seigneur est crucifié et moi je mange de l'huile. C'est pas possible, n'est-ce pas? Car l'huile, effectivement, n'est pas un liquide. Il faudrait faire la mythologie de l'huile. L'huile n'est pas un liquide, en fait. C'est une substance dense, super nourrissante. Il faudrait interroger la langue, n'est-ce pas? Vous savez très bien cette chose qui doit nous mettre en alerte, qu'on dit manger de la soupe et pas boire de la soupe, n'est-ce pas? Même si maintenant les soupes sont liquide, on continue à dire manger la soupe. Eh bien, on mange de l'huile, tout au moins en esprit. Et peut-être que dans l'huile, il y a un thème très euphorique de la lubrification qui est opposé aux nourritures sèches, râpeuses, qui ne glissent pas. Alors, quant aux légumes à gousse, qui sont interdits, évidemment, ils sont proches des farineux, et ils sont interdits sans doute parce qu'ils sont trop nourrissants. Et donc, du point de vue de l'ascèse chrétienne, c'est parce qu'ils nourrissent trop qu'on les interdit. Mais il peut y avoir une toute autre symbolique, car dans le Tao, il y a aussi une interdiction extrêmement rigoureuse des céréales. Mais c'est intéressant parce que c'est pour une toute autre raison que la raison de luxe, de condamnation du luxe, de mortification, de faute. En effet, dans le Tao, les céréales sont interdites parce qu'elles sont censées causer la mort du corps. Vous savez que dans le Tao, disons, il y a deux aspects du Tao. Il y a un aspect, disons, en gros, philosophique, qui serait l'aspect qui est attaché aux écrits de Lao Tzu, par exemple. Mais il y a aussi un aspect magique. Ça a été une religion populaire extrêmement intense et très pratiquée et qui reposait sur des pratiques essentiellement magiques. Eh bien, dans ce Tao-là, dans ce second Tao, toutes les pratiques du Tao sont dirigées pour rendre le corps immortel. Le Tao, n'est-ce pas, contrairement aux Grecs et aux Chrétiens, ne distingue absolument pas l'âme du corps. La distinction âme-corps est une distinction typiquement occidentale, n'est-ce pas ? Dans le Tao, il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps. Par conséquent, le projet chrétien de rendre l'âme immortelle ou de concevoir l'âme comme immortelle n'a absolument aucun sens pour le Tao. Pour le Tao, seul a un sens de rendre le corps immortel. Et par conséquent, de lutter pour rendre le corps immortel, il faut lutter contre des démons qui habitent notre corps à chacun, et ces démons qui naissent dans le corps parce qu'ils sont alimentés par les céréales, ce sont des vers démoniaques, bien sûr, des vers divins, si je puis dire, qui rongent la vitalité. Ce sont des êtres transcendants. Alors, c'est très intéressant, très beau, en tout cas poétiquement. Dans le corps humain, pour le Tao, il y a trois vers nocifs. Et ils ont des noms magnifiques, ces trois vers. Le premier, s'appelle le vieux bleu. Le vieux bleu. C'est le vers qui, disons, est dans la région supérieure du corps. C'est lui qui rend aveugle, qui rend sourd, qui rend chauve, qui fait tomber les dents, qui obstrue le nez. Le second vers, qui correspond au milieu du corps, a un nom non moins merveilleux que le vieux bleu. Il s'appelle la demoiselle blanche. C'est le vers qui provoque les palpitations de cœur, l'asthme, la mélancolie. Enfin, le troisième vers, le vers du bas du corps, a un nom horrible, il s'appelle le cadavre sanglant. C'est lui qui donne les coliques, les rhumatismes, qui fait que la peau se fane, qui provoque l'asthénie et la démence précoce. Donc, pour combattre ces vers, n'est-ce pas, le rôle du sujet Tao, c'est toute sa vie de combattre ces vers. C'est le combat intitulé « Interrompre les céréales ». Riz, le millet, le blé, l'avoine et les haricots. Des citations, les cinq céréales, je viens de vous les citer, sont les ciseaux qui coupent la vie, elles pourrissent les cinq viscères, elles font que la vie est courte. Si un grain entre dans ta bouche, n'espère pas la vie éternelle. Si tu désires ne pas mourir, que ton intestin soit libre. Donc, ces céréales sont maléfiques, il ne faut pas en manger, parce qu'elles sont conçues comme étant l'essence de la terre. Et comme elles sont l'essence de la terre, elles sont exclusivement yin, alors que le ciel est yang. Alors, j'ai cité ce Tao parce que l'interdit n'y est pas directement rattaché à une faute, et donc à un rachat par mortification, mais à une anatomie métaphysique du corps. J'aimerais bien d'ailleurs un jour, une année peut-être, étudier, mais bon, c'est trop à la mode, je dirais, le corps humain, tout le monde en parle, le corps. Mais ce qui m'intéresserait, moi, ça serait d'étudier notre corps en tant qu'il est historique. Notre corps est historique. Et là, le Tao, enfin, donnerait des indications extrêmement précieuses. Un deuxième clivage d'interdit, très subtil, c'est encore une fois l'aumône des moines bouddhistes. En effet, quand le moine va faire sa tournée d'aumône, il peut tout accepter dans son bol, tout sauf le vin. Mais il peut accepter la viande, les œufs, tout. Il ne peut l'accepter et donc le manger par la suite, que si c'est donné tout préparé. Si la nourriture est donnée non préparée, alors à ce moment-là, le moine ne peut accepter ni viande, ni poisson, ni œuf. Et les domestiques du monastère peuvent acheter de la viande et du poisson, mais ils ne peuvent pas acheter d'œufs, car ils seraient obligés de les casser pour les donner à manger, et en cassant un œuf, on tue la vie. Donc on ne peut pas acheter d'œuf. Mais si on vous le donne tout cassé, alors on peut le manger. C'est la même abstention de responsabilité qu'il y avait dans la demande de nourriture. On ne refuse pas l'objet, mais on s'absente de toute action sur lui. Enfin, si il vient tel qu'il est, on l'accepte, mais on se refuse à agir sur l'objet alimentaire. C'est évidemment la grande règle asiatique du Wu Wei, du non-agir, et l'équation posée par toutes ces religions, c'est d'une part non-agir, et d'autre part tout de même vivre. Comment à la fois ne pas agir et vivre? C'est une équation extrêmement difficile à résoudre. En tout cas, le monde actuel, le nôtre, ne fait rien pour favoriser la solution de cette équation. Je voudrais parler maintenant à propos des substances alimentaires, des connotations de nourriture. En effet, un menu, dès lors qu'il est vu ou raconté, emporte un sens qui dépasse sa simple fonction. Bah, vous savez très bien que ça n'est pas la même chose que de lire quelque part jambon, salade et pommes de terre, ou bien de lire foie gras, caille truffée, faisan, asperge, etc. Alors, ça n'est pas seulement, mais j'insiste, ça n'est pas seulement un mécanisme simple de transformation du fait en indice et de l'indice en signe, c'est-à-dire ce qui est cher indexe ce qui est rare, et cet index devient à son tour un signe de luxe ou de fête, c'est que dès qu'il y a signe, le signe est pris dans un système complexe d'images qui fonctionne tout seul. Par exemple, c'est-à-dire que la sémiologie alimentaire, qui est un département très possible de la sémiologie, il est très possible de faire la sémiologie des aliments, mais c'est une sémiologie qui serait complexe, qui ne pourrait pas établir des listes simples, des lexiques simples. Vous avez par exemple le cas du pot-au-feu, qui est à l'origine un aliment, un mets très rustique, je dirais populaire, à Paris encore, quand il y avait des cochers, c'est-à-dire au début du siècle, il y avait des restaurants pour cochers dont le plat principal était le bœuf gros sel, par exemple. Chose de très populaire. Mais le pot-au-feu peut se retourner en affiche de luxe par snobisme. Maintenant, le pot-au-feu, vous aurez des descriptions de pot-au-feu dans les grands magazines féminins, par exemple, où le pot-au-feu va fonctionner comme un suprême luxe qui va renvoyer à l'image d'une rusticité extrêmement élaborée. Et vous avez encore maintenant, dans peut-être pas de très grands restaurants, mais des restaurants assez chers, vous aurez le pot-au-feu fera partie de ces menus. Donc il y a tout un système d'images sociales de la nourriture. Il faudrait faire ici, pour en tenir à des faits tout à fait contemporains, que chacun d'entre nous peut observer, une sorte d'histoire mouvementée de la pizza. Qui à l'origine est vraiment le mets le plus vulgaire, le plus pauvre, le plus populaire qu'on puisse imaginer, le mets mangé par le très petit peuple de Naples, n'est-ce pas, qui ensuite a fait la conquête de Paris sous forme, je dirais d'abord, d'une italianité assez snob, et qui ensuite est redevenu, c'est du moins ainsi que je lis la chose, signe de nourriture modeste, pas chère, pour sortie nocturne au rabais, voir les pizzeriers de Saint-Germain-des-Prés, n'est-ce pas, c'est la fin de la dialectique de la pizza, en fait. Alors, ce système, évidemment, serait à décrire pour chaque époque, et vous allez voir dans Brillat-Savarin a établi, avec une sorte de cynisme sociologique extraordinaire, des menus types qui se réfèrent à différents standings sociaux, c'est-à-dire à des niveaux de rente. Combien gagnez-vous par an? Eh bien, à ce moment-là, je vous dis, voilà votre menu. Voilà le menu qui va signifier ce que vous mangez. Et c'est évidemment un véritable code du menu, si vous voulez. Nous avons encore quelques instants. Vous en lisez. C'est ce qu'il appelle des éprouvettes gastronomiques, n'est-ce pas? On dirait maintenant, si on était un sociologue très orthodoxe, on appellerait ça des tests. Des tests. C'est pas des éprouvettes, c'est des tests. Alors, la première série, qui est le menu type, n'est-ce pas, archétypique, qui correspond à un revenu présumé de 5000 francs, entre parenthèses, médiocrité. Médiocrité, c'est-à-dire le plus bas. Alors voilà le revenu présumé, voilà le menu du revenu des gens médiocres. Une forte rouelle de veau piquée de gros lard et cuite dans son jus. Ou bien, ça c'est pas des additions, c'est des plats types. Un dindon de ferme farci de marron de Lyon. Des pigeons de volière gras bardés et cuits à propos. Des œufs à la neige. Un plat de choucroute, sauerkraut, hérissé de saucisses et couronné de lard fumé de Strasbourg. C'est assez drôle parce que, à la suite de chacun de ces menus, Brillat-Savarin a donné une expression comme une phraséologie, c'est-à-dire la phrase d'admiration qui correspondrait à un tel menu compte tenu de la classe sociale. Alors la formule change avec chaque classe sociale. Alors là, l'expression, ça serait « Peste, voilà qui a bonne mine. Allons, il faut y faire honneur. Alors, la deuxième série, c'est quand le revenu passe à 15 000 francs, c'est l'état de l'aisance. Aisance. Voici, je vous lis. Un filet de bœuf à cœur rose piqué et cuit dans son jus, un quartier de chevreuil sauce hachée au cornichon, un turbot naturel, un gigot de présalé à la provençale, un dindon truffé, des petits pois en primeur. Expression, ah mon ami, quelle aimable apparition, il y a vraiment noces et festins. Et la troisième série, c'est le revenu présumé à 30 000 francs et plus, c'est la richesse. Une pièce de volaille de 7 livres bourrée de truffes du Périgord jusqu'à sa conversion en sphéroïde. Un énorme pâté de foie gras de Strasbourg ayant forme de bastion. Une grosse carpe du Rhin à la Chambord richement dotée et parée. Des cailles truffées à la moelle étendues sur des toasts beurrés au basilic. Un brochet de rivière piqué, farci et baigné d'une crème d'écrevisse. Un faisan à son poing piqué, entoupé, gisant sur une rôtie travaillée à la Sainte Alliance. 100 asperges de 5 à 6 lignes de diamètre en primeur, sauce à l'osmazome. L'osmazome, c'est du jus de viande très doré. 2 douzaines d'ortolans à la provençale, etc. Expression, ah monsieur ou monseigneur, que votre cuisinier est un homme admirable, on ne rencontre ces choses-là que chez vous. Voilà. Alors, naturellement, à partir du moment où on ferait cette sémiologie alimentaire, c'est-à-dire qu'on considérerait les menus et les aliments comme les éléments d'une langue, il y aurait une diachronie, pas ? Toute langue a une diachronie. Et bon, Brillat-Savarin a fixé un état de la langue alimentaire, d'ailleurs dans les classes très aisées, autour de 1825. Mais les mets alimentaires, les mets, sont des valeurs cotées à la bourse de l'histoire. Et par exemple, pour Brillat-Savarin, les œufs à la neige sont un signe de médiocrité, hein, alors qu'aujourd'hui, on les trouve dans de très bons restaurants. Donc, si vous voyez dans un menu de restaurant œufs à la neige, dites-vous que pour Brillat-Savarin, c'était vraiment le bas de l'échelle. Hein. Alors, ce système de connotation alimentaire, je pense que ce sont les traces laïques du grand symbolique de la nourriture qui a été déplacé imaginairement de la nature, disons métaphysique ou religieuse, au paraître social, puisque la société est devenue en quelque sorte notre nature. Je voudrais maintenant vous donner quelques exemples de menus autres que Brillat-Savarin en tant qu'ils sont pris dans une lecture sémiologique. Par exemple, les monastères bouddhistes de Ceylan, toujours. Au petit déjeuner, qu'est-ce qu'ils ont, les moines ? Ils ont du thé ou du café au lait avec sucre, du pain, des galettes, du beurre, des confitures, du miel. Au déjeuner, du riz avec curry, des légumes, du lait frais au caillé, des fruits. Au dîner, du thé ou café sucré, mais sans lait ou des jus de fruits. Bon, alors immédiatement, des connotations, c'est-à-dire des sens de lecture surgissent, frugalité, végétarisme, mais occidentalité et confort. Rien d'ascétique. Voici maintenant ce que mangeait cette communauté dont j'ai parlé, où il y avait la dénommée Lise, avec ses mots un peu bas. Et dans cette communauté, on mangeait à midi une omelette aux champignons, une salade et un fromage de chèvre, et le soir des pommes de terre à l'ail ou du riz complet et des châtaignes grillées. Connotation immédiate. Rusticité, francité, l'omelette, semi-végétarisme, culte de la macrobiotique. Et voici maintenant la nourriture de notre séquestrée, Mélanie. Vous savez que Mélanie a vécu 25 ans dans une crasse incroyable et qu'elle était séquestrée. Tout au moins, c'était l'acte d'accusation de la société. Et pourtant, paradoxe, dans cette chambre, dans cette grotte incroyablement sale, elle jouissait d'une nourriture soignée et ultra-bourgeoise, et une nourriture qui coûtait cher, alors que la mère était par ailleurs avare. Par exemple, au petit déjeuner, pendant 25 ans, Mélanie n'a voulu seulement, elle a eu, seulement une tasse de chocolat de la compagnie coloniale. C'était une marque, sans pain. Au déjeuner, elle avait tantôt, par exemple, une sole frite, une côtelette entourée de pommes de terre, et parfois, on lui faisait venir de l'Hôtel de France de Poitiers, qui existe toujours, je crois, du poulet au blanc avec des champignons, du poulet à la sauce rousse, des huîtres, du pâté de foie gras, et elle buvait un vin de Bordeaux de première qualité, de 2 ou 3 francs la bouteille. Mais au dîner, elle ne voulait seulement que, elle n'avait qu'une brioche ou un gâteau appelé jésuite. J'ai pas pu retrouver ce que c'était que ce gâteau jésuite. J'ai cherché partout où je pouvais. Je sais pas ce que c'est que ce gâteau jésuite. Je le suppose aux amandes, mais c'est purement intuitif. Un gâteau appelé jésuite. Hein? Alors, bon, tous ces menus, là aussi, il y a des sens de connotation. La francité, c'est la nourriture typiquement française bourgeoise, mais aussi, bien sûr, une connotation de caprice, n'est-ce pas, de haut degré de caprice. Voici un autre menu. Au cas où cela vous aurait donné faim, je vais vous en citer un maintenant qui vous enlèvera de l'appétit. C'est le repas dans une famille décrite par Zola, dans Paubouille, les Josserand, c'est la famille qui habite tout à fait en haut, c'est-à-dire dont le standing social est plus que modeste, sont des gens qui n'ont absolument pas d'argent, qui vivent dans la gêne, mais et qui s'épuisent à vouloir marier leurs deux filles, n'est-ce pas, en tout cas l'une d'elles. Et donc cette famille est en proie au redoutable problème du paraître social, du donner le change, de la poudre aux yeux, qui est le titre d'ailleurs d'une pièce de la Biche. Et alors, pour amadouer un oncle, l'oncle Narcisse, dont on voudrait qu'il donne 50 000 francs de dot à l'une des filles, on l'invite à un dîner dans cette famille. Et Zola nous dit qu'il y avait une raie au beurre noir douteuse avec trop de vinaigre, une tourte grasse, tourte c'est-à-dire, un boucher à la reine ou un vol au vent, plus un morceau de veau à la casserole, des haricots verts trempés d'eau et une glace vanille groseille. Alors, il faut noter, c'est pour ça que je cite ce menu, que selon le procédé épique, Zola donne lui-même les signifiés. C'est-à-dire, dans les menus que je vous ai cités, les signifiés, c'est moi qui les infère. Mais Zola, lui, les donne. Ou du moins, il clive le signifiant en deux. D'une part, son standing apparemment objectif, si l'on s'en tient au nom, c'est-à-dire si on s'en tient au nom, c'est un menu plus que correct. Du poisson, une entrée, un rôti, une glace. Je dirais que tous les menus, Dieu sait si j'ai connu moi-même quand j'étais deux ans jeune professeur à l'étranger, n'est-ce pas? Quand les professeurs de français à l'étranger s'invitaient entre eux, il y avait toujours un poisson, un rôti avec des haricots verts et une glace, n'est-ce pas? C'était le code. Donc, c'est un code très honorable. Mais Zola y ajoute tout de suite, à chaque mets, un attribut de délabrement, n'est-ce pas? L'arrêt est... Qu'est-ce qu'elle est, l'arrêt? Oui, elle est douteuse, il y a trop de vinaigre, les haricots verts sont noyés d'eau, etc. Et c'est un thème épique, donc, et qui convient au propos de Zola, pour qui la bourgeoisie est définie par une façade de paraître sur une réalité différente. N'est-ce pas? Donc la nourriture véhicule le mensonge social. Je vais vous donner, pour nous apaiser de toutes ces nourritures, un dernier menu qui est un menu philosophique. C'est le menu de l'homme solitaire. Bien sûr, le menu du solitaire, il y a des descriptions sinistres, des repas de célibataires dans des mauvais restaurants de quartier. Il y a un roman de Huysmans qui est consacré uniquement à ce problème, qui s'appelle « À vos lots ». Je ne l'ai pas retrouvé, sans ça je vous en aurais cité des passages. Mais en face de cette espèce d'enfer de la nourriture de l'homme seul, il y a la nourriture sublimée du philosophe solitaire qui assume sa solitude. C'est une nourriture sobre et heureuse. C'est la nourriture de Spinoza lorsque, à la fin de sa vie, retiré dans une chambre d'une localité près de La Haye, en Hollande, à Forbourg, eh bien, il avait les repas où il se faisait seul dans cette chambre, les repas ou les bouts de repas suivants. Un jour entier, il vivait d'une soupe au lait accommodée avec du beurre et un pot de bière. Un autre jour, rien que du gruau apprêté avec des raisins et du beurre. Il ne buvait qu'un litre de vin par mois. Bah, alors là, la connotation est extrêmement euphorique, sobriété, frugalité, naturalité. Bah, c'est les moines de Ceylan en plus raisonnable, disons. Alors, il va de soi qu'il s'agit ici de connotation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attributs objectifs attachés à telle condition sociale. C'est un problème qui ne fait pas partie de la sociologie, mais qui fait partie de la sémiologie, parce qu'il s'agit de signes. La nourriture est prise dans un jeu de miroir, elle est prise dans un récit, dans un texte, et c'est la nourriture telle que nous la lisons. Mais on peut se demander, est-ce que nous faisons autre chose, je dirais, que de nous lire les uns les autres? Nous nous lisons en train de manger. Et je n'ai pas le temps d'aborder un thème qui serait important, qui serait celui de la nourriture comme secret privé. Il y a un tabou de la nourriture, du menu, pas de la nourriture, mais du menu. Et mon premier séminaire à l'école des hautes études, il y a plus de 15 ans, je m'étais intéressé à ces problèmes de sémiologie alimentaire. Et j'avais naïvement voulu faire collaborer tout le séminaire pour étudier, pour réunir un corpus de menus que nous aurions ensuite étudié d'une façon très saussurienne, comme était la sémiologie de cette époque-là. Alors j'ai demandé à chacun, c'est-à-dire aux 20 participants de ce séminaire, d'apporter chaque semaine les menus de ce que chacun avait mangé, ou certains des menus de ce que chacun avait mangé en des lieux différents. Et j'ai constaté, c'est là où ma naïveté a été surprise, qu'en réalité, il y avait une très grande résistance, du moins à cette époque-là, à rendre témoignage sur ce qu'on mangeait en famille, par exemple, dans le privé. J'ai senti qu'il y avait une résistance et que parler de ce qu'on mangeait publiquement confinait presque au tabou sexuel. Un mot, je dépasse l'heure, mais il faut que je finisse avant les vacances. Un mot très rapide sur le troisième point d'attaque de ce dossier, c'est le problème des pratiques, c'est-à-dire le problème du manger ensemble, de la convivialité. Cette rubrique n'est vraiment donnée que pour mémoire, car c'est un dossier ethnologique énorme. C'est, disons, là se pose tout le rituel des banquets, c'est-à-dire des associations, des réunions pour manger ensemble. Alors, quelques points d'attaque très rapides. Premièrement, l'horreur du manger seul. Il semble qu'il y ait une horreur ou une difficulté à manger seul. Elle semble générale, cette difficulté. Il y a une note de malédiction sur le fait d'être obligé de manger seul. Comme si manger seul, c'était manifester la solitude dans son essence la plus dolosive. Donc, c'est l'objet privilégié du retournement philosophique ou mystique, n'est-ce pas ? Mange seul l'ermite ou le philosophe comme Spinoza. Parfois, bien sûr, il peut y avoir une perversion qui fait qu'au contraire, certains sujets n'aiment manger que seuls et prennent une sorte de jouissance à manger tout seul, souvent en lisant. Deuxième point d'attaque des pratiques, ce serait les rites de communion, c'est-à-dire l'ingestion commune d'un aliment symbolique dont le partage est lui-même symbolique. Tout le thème de « on ne mange pas avec son ennemi », n'est-ce pas ? La communion, c'est un rite d'inclusion, d'intégration, d'initiation, etc. Troisièmement, je vais très vite, les communions extatiques, c'est-à-dire toutes les pratiques qui essayent de déposséder le sujet de sa carapace individuelle par l'effet de la nourriture ou de la boisson et de la mise en commun des corps. C'est pas la forme extrême, ce serait l'orgie. Mais dans nos civilisations, il y a des substituts affadis de cette provocation d'extase, ce sont les banquets ou les repas de famille, où l'intoxication provient bien sûr classiquement de l'alcool et de la nourriture abondante, mais aussi de la longueur démesurée. Je ne crois pas du tout que ce soit uniquement par hasard que les repas de famille ou les banquets soient très longs. C'est pour vous intoxiquer, si je puis dire. C'est une technique d'intoxication. Et parce que le propre d'une orgie, c'est de ne pas se mesurer, n'est-ce pas ? Une orgie est sans limite temporelle. Sans ça, c'est pas une orgie. Et il y avait, je ne sais plus maintenant comment c'est, mais il y avait, quand j'ai été jeune professeur en Roumanie, c'est-à-dire tout de suite après la guerre, il y avait encore à ce moment-là en Roumanie une pratique qui est d'ailleurs d'origine slave, n'est-ce pas, et qui s'est répandue dans les Balkans. On appelait ça des kef, ça veut dire s'enfermer entre amis, par exemple, du samedi au lundi, mettons, et de vivre là, en vase clos, en état de fête alimentaire, et de fête de parole, et de fête de jeu continu, sans aucune intervention du temps, c'est-à-dire sans sommeil, sans rien, manger quand on veut, faire tout comme on veut, quand on veut, pendant un isolat temporel de 48 heures. Enfin, à signaler aussi, la convivialité comme rencontre, n'est-ce pas ? Le repas ensemble, c'est toujours une scène crypto-érotique où il se passe des choses. Ça, c'est très bien décrit dans La Montagne Magique. Je passe parce que j'ai pas le temps, pas. Mais dans La Montagne Magique, le fait pour les pensionnaires du sanatorium de se retrouver tous les jours au repas ensemble est une sorte de fête de la rencontre, parce qu'il y a tout un jeu subtil des places, des changements de place, des conversations qui se déclenchent, et donc il y a une sorte de surdétermination des plaisirs. C'est pas au plaisir de la nourriture s'ajoute le plaisir de la rencontre amoureuse. Voilà. Ma remarque dernière sera la suivante. La nourriture est associée, bien sûr, à la vie, au vital biologique. Mais par retournement métonymique, toutes les métaphores de la vie, en tant que douées d'un sens, d'une valeur, se reversent sur la nourriture. Et il y a échange symbolique entre les changements de vie et les changements de nourriture. Naître de nouveau, c'est toujours manger une autre nourriture. Les trois grandes naissances de l'homme, dans l'embryon, la nourriture par intussusception, c'est-à-dire assimilation d'une substance par accroissement, ensuite le lait maternel et le nourrisson, et troisième épisode, troisième naissance, le sevrage. Eh bien, les malades du sanatorium, de la Montagne Magique par exemple, connaissent ce phénomène, car ils sont là pour sauver leur vie, c'est-à-dire pour naître de nouveau hors de la maladie. Eh bien, on leur sert une nourriture monstrueusement abondante, on les bourre de nourriture pour en faire précisément de nouveaux humains. Mais inversement, et c'est logique, tout dépend d'où l'on part, dans les cures d'amaigrissement, qui font rage aujourd'hui, les cures d'amaigrissement sont très facilement associées par le sujet qui entreprend une telle cure à l'envie de changer sa vie. de naître à une autre vie, de renaître jeune, maître de son désir et donc du monde. Il n'y a pas, pour le dire d'un mot, je ne crois pas qu'il y ait une seule cure d'amaigrissement qui ne fasse en dehors d'un mécanisme symbolique très profond. Une cure d'amaigrissement, c'est un acte religieux, je dirais. Et deuxième observation, c'est la dernière, passer d'une nourriture à une autre, c'est un grand problème pour l'homme. Par exemple, c'est le problème de l'homme qui se marie. Je dis bien de l'homme, n'est-ce pas ? Qui se marie et qui doit passer de la nourriture de la mère à la nourriture de la femme, dont la nourriture, si elle est bien acceptée, deviendra d'ailleurs celle d'une seconde mère. Nous avons souvent entendu des maris appeler leur femme « maman ». Eh bien, ce passage d'une nourriture à une autre, et de la nourriture mère à la nourriture épouse, c'est tout un travail, et ça constitue tout un travail à la fois de deuil, de l'ancienne nourriture, et de renaissance à une autre vie. Voilà, bonnes vacances au mercredi 20 avril.